France Inter.
Bonjour, bienvenue dans le débat de midi sur France Inter. Et ce matin, nous sommes dans la tête d'une maman solo qui fait ses courses, calculette à la main. Elle vague dans cette grande surface, passe devant le rayon Made in France. 35€ le t-shirt en coton bio quand même, mais qui peut se le permettre ? Un jour, j'aurai les moyens de mes convictions, mais en attendant, j'ai les moyens de mes fins de mois. Comme 20% des Français, elle achètera en ligne sur des sites chinois, Shein, Temu, AliExpress, avec un poids sur la conscience. Cette fast fashion, elle le sait, pollue la planète, exploite des travailleurs forcés, met à mal l'économie de la nation. Mais après tout, la France laisse faire, contrairement aux États-Unis. À son arrivée au pouvoir, Donald Trump, le super protectionniste, a déclaré la guerre à la Chine. L'Amérique surtaxe, la Chine riposte, et qui va payer ? Et si c'était vous les premières victimes ? Faut-il s'attendre à une déferlante de produits made in China ? Chaque année, 800 millions de colis chinois débarquent dans l'Hexagone. Faut-il mettre un carton rouge à ce raz-de-marée ? Mettre le paquet pour défendre nos industries ? Et quid du pouvoir d'achat des Français quand 8 Français sur 10 disent se serrer la ceinture ? Bientôt la fin des trop bonnes affaires, on en débat jusqu'à 12h45.
France Inter, le débat de midi. Paola Puerari.
Et ce débat sur la guerre commerciale et notre riposte face au Made in China vous déchire, chers auditeurs. Vous êtes nombreux à nous écrire, comme Fabrice, à prendre parti. 800 millions de colis chinois, et moi, écrit en attaché, hein, je précise, et moi comme un trouble. Allons au bras de fer pour protéger nos petits commerces. Fabiola écrit au contraire. Comment concilier inflation et pouvoir d'achat ? Il faudrait déjà arrêter de culpabiliser les personnes qui achètent Made in China. Alors, si comme ces auditeurs, vous en avez marre qu'on vous laisse la charge mentale d'une consommation éthique, vous réagissez sur l'application France Inter, vous nous envoyez des notes vocales sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000, 01 45 24 7000, comme l'a fait Inès.
Je commande très régulièrement sur Shein, tout simplement parce qu'on y trouve tout, et à très bas prix, avec une livraison gratuite, très rapide, quoi de mieux finalement ?
Quoi de mieux finalement ? Nous allons poser la question autour de la table, car j'ai à ma table eh bien, un chantre du Made in France. Bonjour Arnaud Montebourg.
Bonjour.
Bon, vous n'êtes pas venu en marinière, je suis un peu déçue, mais vous êtes habillé Made in France, j'imagine ?
La marinière, elle est dans la tête, chère madame.
Voilà.
Marie.
Ancien ministre de l'économie et du redressement productif, aujourd'hui à la tête de votre entreprise de miel 100% français qui s'appelle Bleu Blanc Ruche. Face à vous, Jean-Marc Daniel, alias, enfin on vous surnomme dans les papiers, le tonton flingueur de l'économie libérale, l'ennemi du protectionnisme, auteur de nouvelles leçons d'histoire économique aux éditions Odile Jacob et professeur émérite à l'ESCP Business School. Le bras de fer promet d'être saignant. Heureusement, il y aura une arbitre de l'écologie et de l'écologie pragmatique. Flora Gebali, bonjour, militante les pieds sur terre.
Bonjour.
Autrice du syndrome de la fourmi, voir et dépasser les barrières mentales de l'inaction écologique. On espère que vous allez nous aider sur ce point, édition de l'Observatoire. Alors, je vous rappelle les chiffres. 4 milliards de petits colis chinois sont entrés dans l'Union européenne en 2024, soit 12 millions par jour, soit 91% des colis reçus en Europe. Arnaud Montebourg, Donald Trump a fait quelque chose, il a tapé fort sur la Chine. Est-ce que l'Europe doit l'imiter ?
Ben, nous sommes déjà les esclaves numériques des GAFAM, c'est-à-dire qu'en fait les États-Unis nous pompent toute la valeur et c'est une des raisons pour lesquelles l'Europe est en train de perdre finalement à 30% de valeur de moins, donc elle a perdu la bataille de la croissance, elle est à plat pendant que les États-Unis s'envolent. Et maintenant nous sommes attaqués industriellement par les Chinois, mais pas que les grands distributeurs de fast fashion, mais également la voiture électrique, même les matériaux de carrière, le bois, enfin, bref, nous sommes aujourd'hui menacés. Alors c'est une concurrence déloyale, c'est-à-dire qu'en fait, les États-Unis, c'est une concurrence par le monopole, parce qu'on les a laissés faire, donc maintenant il va falloir s'en débarrasser, ça va être plus cher et plus difficile, mais du côté chinois, c'est une concurrence déloyale, c'est-à-dire qu'ils pratiquent le dumping, même quand vous mettez des taxes, Trump l'a fait de 200%, ils absorbent les 200%, mais c'est plus difficile, mais ils le font quand même. Donc le sujet, c'est de revenir finalement aux années 70, quand les Japonais ont attaqué avec l'automobile l'Union Européenne, on leur a mis des quotas d'importation. Bah, ça se terminera comme ça. Si on veut sauver notre automobile, il y a 15 millions d'emplois 15 millions d'emplois en Europe. Volkswagen vient d'annoncer un plan social de 35 000 personnes, et c'est ce qui se passe en France et qui se prépare. Donc, évidemment, soit l'Europe nous protège, soit ce sera la rébellion contre l'Europe, et vous aurez des réactions nationales extrêmement vives.
Donc le bras de fer, on monte les muses. Jean-Marc Daniel, c'est votre avis aussi ?
Pas du tout, non. La description de ce qui se passe en ce moment n'est pas conforme à la réalité. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre les États-Unis et l'Europe, c'est pas des taux de croissance, c'est pas une espèce d'envolée des États-Unis, c'est que les États-Unis, c'est le premier déficit extérieur mondial. Les États-Unis représentent à eux seuls 2/3 des déficits extérieurs cumulés. Et en face de ça, quels sont les gens qui sont les grands vainqueurs du commerce international et de l'ouverture des marchés. En tête, vous avez effectivement la Chine, 165 milliards d'excédents au premier trimestre de cette année. Et le deuxième plus gros excédent, ce sont les pays de l'Union européenne. C'est l'Union européenne avec 115 milliards. Alors là, c'est des euros, alors que les 165 milliards, c'était des dollars pour la Chine. Donc, on est à peu près l'équivalent de la Chine. Sur les États-Unis, nous représentons un excédent commercial de 200 milliards. Et si nous, de 200 milliards d'euros, là aussi.
Et si nous sommes gagnants, c'est ça que vous dites.
Nous sommes les gagnants du libre-échange. Parce que dans le libre-échange, il y a effectivement des importations, puis il y a aussi des exportations. Et donc, quand on regarde en termes d'importation, la Chine nous a apporté environ 100 euros de pouvoir d'achat par mois, par ménage dans ce pays. Et quand vous regardez du côté des exportations, vous avez effectivement une capacité de l'Union européenne à exporter vers les États-Unis, mais également en partie vers la Chine et de plus en plus vers les pays du sud global qui sont en train d'émerger. Et donc, globalement, on est plutôt un des grands bénéficiaires du commerce extérieur et du libre-échange, à la différence des États-Unis.
Alors, 100 euros de pouvoir d'achat en plus, mais
par
100
mois.
Euros de pouvoir d'achat pour acheter quoi, Flora Gebali ? Il faut peut-être nous rappeler aussi ce qu'on consomme.
Mais je vois surtout pas en quoi on est les gagnants du libre-échange alors qu'il y a des enseignes qui ferment chaque semaine en France. Rien que la semaine dernière, Naf-Naf et Princesse Tam-Tam qui sont entrées en liquidation judiciaire et que le pouvoir des Français n'augmente plus que de 0,9% par an alors qu'il augmentait de 5% par an pendant les 30 Glorieuses. Et puis la question pour acheter quoi ? Si c'est pour acheter des t-shirts à 5 euros, à quoi ça sert ? Sachant qu'on a doublé notre consommation de vêtements sur les 20 dernières années, pendant que l'économie industrielle du vêtement a été divisée par deux. Donc en fait, plus on consomme, plus on abîme notre commerce et notre industrie. En fait, le t-shirt à 5 euros, c'est vraiment le cœur du sujet. Parce que c'est pas que le made in China qu'il faut interroger, c'est toute une logique économique qui est un poison pour notre économie, je l'ai dit, aussi pour l'écologie évidemment, pour reprendre l'exemple Chine, c'est 10 000 nouveaux produits par an qui arrivent par jour en France, 17 millions de tonnes de CO2 par an, mais aussi ça détruit le vivre ensemble et la démocratie. Et c'est ça, je crois, le succès de la loi fast fashion à l'Assemblée nationale et au Sénat récemment. C'est la preuve que cette fast fashion, mais fast fashion ça marche aussi aujourd'hui pour les meubles, ça marche aussi aujourd'hui pour les automobiles, ça marche sur tous les sujets industriels, cette fast fashion est en train de détruire notre démocratie parce que, après avoir détruit les centres-villes, les pouvoirs d'achat des Français, elle est en train de faire de cultiver les ressentiments sur le territoire.
Alors, l'Union européenne, restons sur cet exemple de la fast fashion. Effectivement, on aurait pu ouvrir aux voitures, on aurait pu ouvrir aussi aux panneaux solaires chinois, etc. On aurait pu ouvrir à. Voilà. Mais si on reste sur cet exemple qui est assez.
Nous sommes trop ouverts, pas assez refermés.
Alors, voilà. L'Union européenne souhaite mettre en place une taxe de 2 euros sur chaque petit colis venant de Chine en arrivant sur le territoire européen. 2 euros, Arnaud Montebourg, est-ce que ça peut faire changer les mentalités ou est-ce que c'est une blague, comme l'a dit par exemple Alexandre Montbard, le PDG de Carrefour ?
Non, mais c'est une question, qui mérite qu'on se projette un tout petit peu plus loin. Quelle est la stratégie alternative à celle du « le consommateur dirige la société » ? Le consommateur, il est aussi citoyen, il est aussi producteur. Ils sont moins nombreux d'ailleurs, mais les citoyens sont aussi nombreux que les consommateurs. Et comme le disait ma voisine à l'instant, on a un petit sujet de destruction économique. Donc c'est quoi la conséquence ? Que vaut-il mieux ? Avoir des industries qui payent des bons salaires plutôt que plus d'industrie et de la consommation low cost. La réponse est, s'il n'y a plus de pouvoir d'achat à distribuer dans un pays, et ça commence à être le cas en France, beaucoup de pays européens sont appauvris, et la France est sur cette pente, eh bien, elle a un déficit extérieur qui est dramatique. D'ailleurs, c'est un des problèmes pathologiques de la France dans l'Union européenne. Donc les moyennes faites par M. Daniel à l'instant, c'est une moyenne avec l'Allemagne qui est archi-excédentaire, c'est la Chine de l'Europe en quelque sorte, mais si vous enlevez l'Allemagne, bah c'est pas brillant quand même. Donc tout ça pour dire que La question, c'est quelle est la stratégie? Est-ce qu'on préfère le court terme du consommateur ou le long terme du producteur? Et dans une préférence collective, nous pouvons faire le choix, et moi je défends ce choix, de défendre le producteur et de mettre en rapport les salaires qu'on distribue avec la consommation qu'on adresse à l'appareil productif.
Jean-Marc Dadiel.
Oui, d'abord concernant l'Europe, effectivement, la France est le mouton noir de l'Europe. Assez curieusement, elle a réussi l'année dernière à équilibrer ses comptes extérieurs, mais pour une raison simple, c'est grâce aux Jeux Olympiques. Mais elle a eu juste un excédent extérieur l'année dernière de 4 milliards d'euros. Parce qu'il y a l'aspect commercial, et puis dans le commerce extérieur, il y a aussi les échanges liés au déplacement des hommes, le tourisme, les gens qui vont travailler dans un pays extérieur, un pays étranger, et puis il y a les mouvements de capitaux aussi, la rémunération des capitaux. Mais si vous regardez l'ensemble de l'Union européenne, la France est le seul pays en déficit. L'Allemagne, effectivement, c'est un peu notre Chine, mais vous regardez l'excédent de l'Italie, il est en train de s'accroître de façon spectaculaire, vous regardez l'excédent des Pays-Bas, vous regardez l'Espagne, qui a un taux de croissance très très fort et qui est assis en particulier sur son développement de son commerce extérieur. Donc, on a intérêt à avoir un commerce extérieur qui soit dynamique, et c'est la France qui est dans une situation délicate. Et pourquoi la France est dans une situation délicate? On l'a dit, le pouvoir d'achat augmente assez peu par rapport au temps glorieux, c'est parce que l'efficacité du travail n'est plus au rendez-vous. C'est pas un problème de commerce extérieur, c'est un problème d'efficacité et de productivité.
Mais est-ce que c'est pas un problème de vision aussi, Jean-Marc Daniel, dans le sens où c'est un peu la fin de cette mondialisation heureuse et un retour au protectionnisme? Et effectivement, l'Europe entre Pékin et Washington va se faire avaler. Est-ce qu'il ne faut pas s'armer?
Je ne crois pas. Juste deux remarques avant de vous donner la parole. Premièrement, la croissance mondiale maintenant, elle va se jouer sur les endroits où il y a des jeunes et où il y a des hommes jeunes susceptibles de nourrir cette croissance mondiale. Donc elle est en Inde. Donc l'avenir de l'Europe, c'est aussi d'investir en Inde. Vous regardez le Japon, qui est un pays, effectivement, qui est un pays vieux, avec un commerce extérieur commercial, le commerce stricto sensu négatif et déficitaire, mais le Japon retire des revenus du fait qu'il a placé de l'argent à l'étranger. Vous et donc l'avenir, c'est de créer des usines en Inde avec des capitaux et de l'épargne française.
Je vois Flora Gebelli bondir pour vous répondre.
Non,
allez-y,
parce
Flora.
Que vous avez raison. Vous avez posé les mots, Paola. C'est pas un problème de compétitivité, c'est un problème de vision. Il y a quoi d'utile et d'essentiel aux Européens et aux Français dans les 800 millions de petits colis chinois dont vous parliez? Pourquoi on veut toujours plus de compétitivité pour faire plus de t-shirts à 5 euros. Ça y est, on a tous assez de t-shirts pour faire plus de petits objets qui vont nous servir à rien et qui vont... Non mais honnêtement, et c'est ça aujourd'hui toute la question. C'est pas une question de compétitivité, c'est une question de désir et d'économie qui n'est plus basée sur le besoin mais qui est basée sur le désir. Vous savez, la définition de la fast fashion, c'est une mode qui nous fait consommer toujours plus grâce à deux choses. Des bas prix et une publicité. Les bas prix, je vous le dis honnêtement, on sera jamais compétitif avec un pays comme le Bangladesh, qui paye 95 dollars par mois ses travailleurs, ou un pays comme le Vietnam, qui paye 180 dollars ses travailleurs. Sur la question de la publicité, on sait aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle des conditionnements évaluatifs, qui en fait sont des sortes de mécanismes d'addiction, qui font assimiler les consommateurs certains achats avec certaines valeurs. En gros, pour être heureux, vous avez besoin d'acheter sur Shein, je vous la fais courte. Aujourd'hui, ces conditionnements évaluatifs, ils sont en train de détruire non seulement l'économie, ça on l'a dit, mais aussi la santé mentale. En fait, moi, je n'en peux plus qu'on cloisonne l'économie avec le reste des sujets qui font notre société et notre économie. L'économie, l'étymologie de ce mot, c'est la gestion de la maison. Aujourd'hui, on gère la maison de manière commerciale, donc toujours plus, sans penser qu'est-ce qu'on veut à l'intérieur. La prix Nobel de l'économie, Esther Duflo, qui était aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, elle a dû rappeler un truc assez basique pour une prix Nobel à l'Assemblée. Le but de l'économie, c'est de rendre heureux les populations. Et aujourd'hui, l'économie ne marche plus.
Bravo. Non, j'approuve vraiment ce qui vient d'être dit.
Mais
Monsieur Daniel est, paraît-il, professeur émérite. Il est peut-être professeur
alors,
émérite.
Confirme,
non, mais il est peut-être professeur émérite. Je passe ma vie à le combattre sur les plateaux depuis des années. Et je suis content de le retrouver là, parce qu'il dit toujours les mêmes bêtises. C'est quand même
toujours les mêmes
extraordinaire.
Choses, pas les mêmes bêtises.
Pour moi, c'est une bêtise que, heureusement, que de professer l'idée que la France n'a absolument plus aucun espoir de réindustrialisation et qu'il faut donc aller industrialiser les autres pays. Si un pays est libre, si un pays est prospère, si un pays choisit son destin, c'est parce qu'il a une économie forte et une industrie puissante. La France a abandonné ça au profit des consommateurs. Voilà. Et pas du tout en soutenant ses producteurs. Eh bien, la conséquence, c'est que maintenant, nous sommes enchaînés. Enchaînés aux GAFAM américains, enchaînés à l'industrie chinoise. Et quand on achète les produits des autres, eh bien, vous êtes dans la main de ceux qui les produisent, les brevets, les normes, etc. Donc, je désapprouve le point qui vient d'être défendu par M. Daniel, qui consiste à dire, allez fabriquer les usines chez les autres. Non, nous avons un travail à faire, qui pour moi est transpartisan, et qui va durer 10 ans. Il va falloir réindustrialiser la France. C'est 50 milliards de chiffre d'affaires qu'il faut relocaliser sur le sol national.
Alors, monsieur Daniel, vous allez avoir évidemment un droit de réponse dans quelques instants, mais déjà, les auditeurs veulent aussi prendre parti à ce débat. Franck nous dit, j'essaye au maximum de ne pas acheter Made in China, mais c'est très très difficile d'acheter français. Et Maïté nous dit, je pense qu'une majorité de consommateurs préféreraient acheter français. Ce qui est triste, au fond, c'est que les Français n'ont pas les moyens de consommer national. Alors, on va se demander, dans la prochaine partie de cette émission, si le protectionnisme a un prix et surtout qui va payer l'addition. Je vois bien Jean-Marc Daniel sourire déjà en se demandant si ce n'est pas le consommateur qui va payer la note salée. On va en débattre, mais on écoute tout de suite Spells de Freaks Lugs. On revient dans un instant.
Débat de midi.
Toujours ensemble jusqu'à 12h45 sur France Inter et ça débat sec entre le mousquetaire du souverainisme Arnaud Montebourg et le chantre du libéralisme Jean-Marc Daniel. Au milieu, elle essaye de tenir la barre, l'écologiste Flora Gebali. On se demande s'il ne faut pas interdire le Made in China, faire comme Trump et passer en mode super protection. Vous avez été très nombreux à réagir sur le WhatsApp de l'émission 01 45 24 70 000. Non. Attendez, je recommence. 01 45 24 7000. Florence nous écrit « Arrêtez donc de mettre à l'index les consommateurs, mettez à l'index les décideurs et les actionnaires. » Et Shaïma nous a laissé une note vocale sur l'application France Inter.
J'achète français, je paye un petit peu plus cher pour mon jean, ma paire de baskets, mes chaussettes. Mais par contre, ça n'a rien à voir en termes de durée de vie. Mon jean, je le garde pendant 5 ans et j'en ai 2 ou 3 dans mon placard. Et ça me convient très bien comme ça parce que j'ai l'impression de mieux consommer.
Alors voilà une auditrice qui a pris le pas, effectivement, d'acheter français, mais peut-être a-t-elle les moyens. On se souvient que 8 Français sur 10 se serrent la ceinture. Arnaud Montebourg, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui n'ont pas les moyens d'acheter ce jean?
Alors d'abord, ce n'est pas le cas partout. C'est vrai que sur les vêtements où la mondialisation asiatique a pris le pouvoir sur notre consommation, on a perdu beaucoup de tout ce qui est l'équipement de la personne et sur toute l'industrie textile. Donc évidemment, là, on n'est pas compétitif comme tout à l'heure, Flora Gebali l'explique. Cliquait à partir des différentiels de salaire. Donc le sujet, c'est est-ce que nous avons une industrie alternative ? Oui, elle est différente, elle cherche des nouveaux modèles économiques. Aujourd'hui, vous prenez un jean 1083 fabriqué à Romans, c'est le même prix qu'un jean Caporal, mais vous avez le marketing en moins, vous n'avez pas la boutique, et finalement, vous avez un Made in France compétitif. Pardonnez-moi, les véhicules français sont moins chers que la plupart des véhicules européens d'ailleurs, plus cher. Donc, on peut pas dire que c'est forcément plus cher. Faut s'enlever ça de la tête, premièrement. Deuxièmement, l'industrie française est trop petite. Donc, il faut la remonter pour que les consommateurs qui disent on n'y arrive pas, on trouve pas, et c'est vrai, c'est trop petit, donc il faut la remonter. Et avec l'aide des consommateurs. Donc, j'ai envie de dire, on ne met pas l'index les uns ou les autres. Tout le monde prend sa responsabilité selon ses moyens. J'ai envie de dire, comme le disait le président Mao, selon ses moyens. Tout le monde n'a pas le moyen de substituer... tout le monde n'a pas les moyens de substituer un produit français, mais quand il le peut, il faut le faire.
Flora Gebelli.
Moi, j'ai une divergence avec M. Montebourg sur ce point. Je pense que ces dernières années, on a beaucoup culpabilisé les consommateurs sur l'achat Made in France et aussi sur l'écologie de manière générale, comme si c'était sur nous que pesait la charge de la transition écologique. Sauf que, honnêtement, d'abord, ça dépend vraiment des décisions politiques et économiques qui sont faites. Et ensuite, on est pris au piège par un mécanisme d'addiction à la consommation. Enfin, je vous mets au défi, quand vous êtes sur votre téléphone en train de scroller, de vous arrêter en libre arbitre, c'est très difficile personnellement. Alors même que je lis toute la journée sur les déconstructions cognitives, je suis moi-même addict à mon téléphone et incapable de passer outre. Aujourd'hui, le problème qu'on a, vous savez ce que c'est le mécanisme de la fast fashion, c'est très simple. J'ai discuté avec une marque de vêtements, de décoration, excusez-moi, Maison du Monde pour ne pas la citer, avec quelqu'un qui était haut placé dans cette entreprise et qui m'a dit, chez Maison du Monde, on a une façon de faire très simple. On sait très bien que les gens vont pas changer de canapé tous les 3 mois. C'est impossible. En revanche, si nous, on change les produits tous les 3 mois, alors au lieu de garder un canapé 15 ans, les Français vont garder plutôt 2 ou 3 ans. Donc on produit énormément de déchets pour que la mode change et que les gens aient envie de changer de canapé au bout de 2-3 ans. Dans cette mécanique infernale, honnêtement, le consommateur, il y peut rien. C'est un être qui a des désirs et qui a des envies de consommer et qui a des envies d'être à la mode, parce qu'on le sait, la mode, c'est l'appartenance sociale et c'est ça qui fait qu'on est un individu où on se sent bien, assimilé à des valeurs qui nous paraissent bien. Donc, pour moi, toute l'écologie qu'on fait depuis des années, qui repose sur la culpabilisation des consommateurs, est à arrêter.
Est-ce que ce n'est pas aux décideurs de prendre le parti d'interdire ces marques, d'interdire leur publicité, de les taxer plus, Jean-Marc Daniel, pour ne pas que toute cette pollution arrive en France et qu'on paye une facture lourde à la fin ?
Alors, 3 choses. La première, c'est effectivement, l'exemple de Mao était un bon exemple. La Chine de Mao était totalement souveraine. C'est-à-dire, elle produisait tout ce qu'elle voulait consommer. Je pense que personne n'a envie de revivre dans la Chine de Mao. La Corée du Nord, c'est le pays qui a la plus grande souveraineté à l'heure actuelle, puisqu'il importe pratiquement rien et il vit exactement sur sa production locale. Est-ce qu'on a envie de vivre ça? La deuxième remarque que je ferai sur...
On n'utilise pas l'épouvantail communiste pour nous dire, voilà, les chars russes vont descendre sur les Champs-Élysées. Bah,
C'est pas moi qui ai parlé de Mao, mais bon, voilà.
Le plus souverain, c'est celui de Xi Jinping qui fait du capitalisme et de l'autoritarisme communiste. Oui,
non, il n'est pas du tout souverain, dans la mesure où il est dépendant sur un certain nombre de choses, effectivement, de fournitures étrangères. Sur l'économie, je rappelle quand même que économie, c'est économie politique au départ, et effectivement, c'est la gestion, mais de l'État. C'est donc la capacité, effectivement, des gens qui sont à la tête de l'État de donner les moyens à la population d'atteindre. Donc, le premier professeur d'économie, mon lointain ancêtre, a enseigné il y a 2 siècles, en 1825, et il expliquait que le rôle de l'économie politique, c'était de améliorer la situation de richesse et de pouvoir d'achat de la population. Et donc, comment est-ce qu'on améliore la situation de richesse et de population et de pouvoir d'achat de la population? C'est effectivement en ayant des prix les plus bas possibles. Et la réponse par le protectionnisme, c'est une réponse qui consiste à baisser le pouvoir d'achat, parce que les droits de douane...
À appauvrir le consommateur.
Le consommateur, les droits de douane, c'est pas les Chinois qui vont les payer. C'est les Américains qui vont les payer. Si on met des droits de douane, c'est les Français qui vont les payer. Et le consommateur, encore une fois, je veux bien admettre que le consommateur est faible sur le plan intellectuel, se laisse emporté par le marketing, que le consommateur ne comprend rien à ce qui lui arrive. Mais le consommateur, il a au moins une chose qu'il comprend, c'est que quand il a une baisse du pouvoir d'achat, il y a un certain nombre de choses qu'il ne peut plus se permettre.
Il a envie, le consommateur, de pouvoir acheter ses packs de t-shirts à 12 euros. Qu'est-ce
Exactement.
Que vous lui répondez, Arnaud Montebourg, si vous lui privez de ce droit, effectivement?
Quand il n'y a plus de producteurs, il n'y a plus de pouvoir d'achat, donc il n'y a même plus de consommateurs. Donc il faut qu'on ait des producteurs. Donc il faut remonter l'industrie. Le protectionnisme, c'est pas une décision durable. C'est un moment derrière lequel nous nous abritons pour remonter un appareil productif. C'est ce qu'ont fait les Japonais au 19e siècle. C'est ce que d'ailleurs les pays européens ont alternativement fait entre des périodes de libre-échange, des périodes de protectionnisme. En ce moment, nous avons besoin de rétablir les termes de l'échange contre la concurrence déloyale et destructrice, et nous avons besoin de reconstruire notre industrie, donc notre économie.
Vous n'avez pas l'impression que le Japon s'est drapé dans une sorte de déclin, Arnaud Montebourg ?
Non, c'est un déclin qui est démographique d'abord. D'ailleurs, c'est un peu ce qui nous guette, nous les pays européens, de manière générale. Mais le Japon est un pays extrêmement puissant, robuste, et il a construit toute son industrie dans la première révolution industrielle grâce au protectionnisme, à l'ère du Meiji. Je rappelle que tous les pays les plus pauvres de la planète qui ont réussi à entrer dans le concert des nations industrielles, donc de devenir une industrie puissante, eh bien ce sont les pays qui se sont protégés. La Chine, numéro un d'ailleurs dans le genre. Et quand vous lisez aujourd'hui un rapport du commissariat au plan français, qui d'ailleurs était signé par M. Bayrou quand il était encore pas le Premier ministre de la France, et qui était haut commissaire au plan, il disait « Par certains aspects, la France présente les traits d'une économie en voie de développement ». Ça veut dire que nous avons besoin de protectionnisme pour remonter tout ça et réattraper les nouvelles générations technologiques. Et puis après, on pourra se détendre un tout petit peu. Donc le libéralisme de Monsieur Daniel, il est soit obsolète, soit trop futuriste. Mais non, c'est pas maintenant.
Juste une remarque, puisqu'il a lancé l'affaire sur le Japon. Effectivement, vous avez raison. Le problème du Japon, c'est que le Japon est en train de devenir déficitaire sur le plan commercial. Il a même le même déficit commercial que la France. Pourquoi ? Parce que il n'y a plus de gens au Japon pour travailler. Le Japon, c'est devenu une maison de retraite. C'est un pays qui est très très vieux. Mais comment est-ce que le Japon assure son revenu ? Comment est-ce que le Japon assure son train de vie ? Mais le Japon assure son train de vie en ayant placé de l'argent à l'extérieur, en étant propriétaire d'usines à l'extérieur. Et il est propriétaire d'usines où ? Il est propriétaire d'usines dans les pays qui se développent, c'est-à-dire essentiellement l'Asie du Sud-Est, particulièrement l'Indonésie. L'Indonésie qui a un taux de croissance de 6,4% cette année. L'Inde, 6,8% cette année. Et ces deux pays sont des pays qui sont en train de faire une politique résolument libre-échangiste.
Benjamin, vous répond Jean-Marc Daniel en direct dans cette émission au 01 45 24 7000. Le consommateur, comme vous dites, est un esclave au service de votre vision libertaire. On va en débattre effectivement.
Je suis bien d'accord avec Benjamin.
Pauvre consommateur qui n'a même plus la capacité
pauvre
de sa liberté.
Alors, on va parler de cette liberté. Justement, on va l'interroger, cette liberté. Est-ce que c'est à l'État de dire quoi faire au consommateur, ou est-ce que le consommateur doit être libre et en conscience d'acheter des produits made in China. Est-ce qu'il faut que l'État nous protège de ce textile qui, je le rappelle, est toxique et fait de produits chimiques, ou au contraire, est-ce qu'il faut laisser les gens libres ? On va en parler, et on va parler aussi de l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, à la tête de l'entreprise Chine. Dites-nous si sa reconversion vous choque au 01 45 24 7000. Lui ne se gêne pas pour aller travailler dans cette industrie, alors pourquoi il vous faudrait, vous, avoir une consommation éthique ?
Les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, d'Adam, mais j'entends leurs pas dans le désert. J'entends leurs pas dans la prairie. En ville, sur une place, dans l'allée des cimetières, dans l'allée des grandes surfaces, à l'appel du printemps, je les entends se faire des promesses de hauteur, de souplesse, d'argent. Je les entends faire des prières, souvent pour eux-mêmes, parfois pour leurs congénères. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans. Il y en a un au bord du Nil, il y en a une dans un cul-de-sac, un autre accroupi dans la flaque, le doigt dans une anémone, le rire qui carillonne, la face qui rayonne, une autre au bout de ses efforts, emporté dans la mort, l'amour, le carbone. Je n'ai pas connu en personne.
Bertrand Belin, l'inconnu en personne sur France Inter.
Le débat de midi, Paola Puerari sur France Inter.
Toujours ensemble jusqu'à 12h45 sur France Inter avec Jean-Marc Daniel qui veut qu'on fiche la paix aux consommateurs, avec Flora Gebali, l'écologiste, Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie, défenseur du Made in France. Alors, vous êtes énormément à réagir sur le WhatsApp de l'émission 01 45 24 7000 et vous êtes énormément qui veulent aborder la question de la seconde main. Est-ce qu'il faut arrêter de consommer des nouveaux produits et aller vers l'économie de la seconde main.
Depuis petite, ma maman m'a appris à acheter en seconde main, que j'ai gardé en grandissant. C'est une manière de dire non à la fast fashion comme Shein, de dire non à l'exploitation des travailleurs, de dire non à la pollution.
Arnaud Montebourg, est-ce qu'il faut aller vers cette seconde main? Et si on va tous vers cette seconde main, ça ne va pas relancer l'économie française?
Ça va surtout éviter l'économie chinoise. Donc c'est pas mal. Vous savez, le textile est aujourd'hui, il n'y en a presque plus. On importe 98% de ce qu'on consomme. Quand vous voyez que dans l'agriculture, on n'est pas très loin de la même chose, dans certains secteurs. Donc le travail, c'est de remonter des entreprises, remonter des boîtes et les faire vivre avec des consommateurs qui les soutiennent. Donc pour l'instant, la fast fashion, c'est l'objectif, à combattre. Et donc, tout ce qui peut permettre d'augmenter la durée de vie de ce que nous produisons sur place est bon et doit être encouragé et soutenu. Et d'ailleurs, pourquoi pas trouver des mécanismes qui pourraient soutenir ce recyclage, en quelque sorte.
Les Français n'ont pas attendu que ce soit la mode pour faire des vide-greniers le week-end ou participer à des brocantes. Aujourd'hui, le problème qu'on rencontre avec qui est une super logique économique directe consommateur. Mais le problème qu'on rencontre, c'est qu'aujourd'hui, il y a les logiques de fast fashion qui rentrent dans la logique de seconde main. Sur Vinted, première application française pour faire de la seconde main, on voit aujourd'hui se développer une forme de fast fashion de seconde main, c'est-à-dire qu'il y a des consommateurs qui achètent pour revendre, revendre pour acheter. Et la machine infernale reste la même. Moi, ce qui m'étonnait dans ce que vous disiez sur le libéralisme, Jean-Marc Daniel, foutez-nous la paix, le consommateur est libre, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur n'est pas libre puisqu'il consomme dans un marché dont les règles du jeu sont pipées. Dans un marché dans lequel les règles du jeu ne fonctionnent pas équitablement. Dans lequel il y a une distorsion des règles du marché de la concurrence. Je m'explique très simplement. Aujourd'hui, plus une entreprise produit mal, plus elle gagne de l'argent. C'est aussi simple que ça. C'est ce que certains appellent la prime au vice. Plus une entreprise pollue, paye mal ses travailleurs, utilise des moyens carbonés pour livrer ses produits, plus elle gagne de l'argent. C'est ça le problème. C'est que le jeu, il est pipé. Et aujourd'hui, les lois du marché, moi, je ne comprends pas pourquoi. Il y a d'ailleurs certains libéraux qui sont d'accord avec le protectionnisme vert européen. C'est pas antinomique. Et en fait, à en faire un débat antinomique, on dirait qu'il y a des gens qui défendent des consommateurs libres et heureux et des gens qui défendent la Chine de Mao. C'est pas exactement ça.
Mais est-ce qu'on a les moyens d'arrêter de jouer dans cette mondialisation.
L'Union européenne, on est le premier marché de consommateurs européens. Aujourd'hui, si les Chinois essayent de nous vendre des voitures BYD ou des vêtements Shein, c'est parce qu'ils savent que non seulement on a du pouvoir d'achat, mais ensuite on est 750 millions de consommateurs. On est très nombreux. Donc oui, on a un levier commercial qui est d'être le premier marché du monde. Si aujourd'hui, on inverse la prime au vice par une prime à la vertu, en mettant des règles de concurrence, moi je suis pas pour fermer le marché et avoir une économie soviétique. Je suis pour mettre des règles du jeu qui sont loyales et équitables. C'est pas très compliqué.
Alors c'est à l'État de prendre des décisions, Jean-Marc Daniel.
Alors d'abord, la Chine c'est un fournisseur, mais on peut chercher d'autres fournisseurs. Moi, je suis frappé du fait que lorsque un autre fournisseur, un autre compétiteur se présente, comme le Mercosur, on dit non, surtout pas. On va rester dans une espèce de discours et de dialogue quasi exclusif avec la Chine. En réalité, il faut multiplier les accords de libre-échange. On a signé un accord de libre-échange il y a 4 ans avec le Vietnam. On a un accord de libre-échange avec le Japon.
Avec l'Indonésie bientôt.
Bientôt avec l'Indonésie. Donc, il y a des accords de libre-échange qui permettent effectivement d'introduire cette concurrence qui est effectivement l'alpha et l'oméga de ce qu'on doit faire sur le plan économique.
On met nos œufs dans pas mal de paniers, voyez, comme ça on n'est pas dépendant, oui. C'est ça que vous dites.
La deuxième chose que je voudrais dire, c'est concernant effectivement la seconde main, ça existe depuis longtemps, il y a des marchés d'occasion qui existent depuis très longtemps, et effectivement ce marché de seconde main est en train de se développer grâce aux moyens technologiques. Maintenant on peut effectivement créer, on a parlé de Vinted, tous ces marchés-là sont des marchés qui sont sur Internet. Et donc ça a permis effectivement d'élargir la capacité à la d'échange et d'élargir la capacité d'action du consommateur et de la personne qui veut vendre. Je voudrais d'ailleurs signaler que le...
Donc vous n'êtes pas décroissant. Parce que c'est ça qu'on entend aussi dans la bouche de nos auditeurs, l'appel à consommer moins.
Mais on consomme moins si on fait sur la seconde main, on consommera moins d'une certaine façon. Et les produits qui sont sur la seconde main, ils arrivent assez souvent, eux aussi, on vient de le dire, de Chine. Il y a des gens qui achètent en Chine et qui revendent en seconde main. Quant au consommateur qui est totalement victime du marché, je rappelle juste une chose, grâce justement à Internet et à la possibilité d'ouvrir des marchés, un des jours où il y a le plus d'activité sur ces marchés de seconde main, c'est le 26 décembre. Parce que spontanément, les gens se portent sur ces marchés pour revendre les cadeaux de Noël. Personne ne leur a dit de revendre les cadeaux de Noël. On peut même considérer que c'est quelque chose de relativement peu sympathique de revendre les cadeaux qu'on vous a fait. Et spontanément, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de marketing disant aux gens, vous allez revendre votre cadeau de Noël. Spontanément, la population...
Oui, ce n'est pas le Black Friday, c'est ça que vous dites. C'est qu'en fait, on est dans une économie de libre-échange où les gens ont pris l'habitude de marchander.
La population spontanément adhère à ce modèle d'échange et de concurrence.
Laura n'est pas du tout d'accord avec vous, malheureusement, Jean-Marc Daniel. Elle dit l'État doit agir, on a laissé les gens décider de ce qu'ils voulaient consommer, en l'occurrence ça ne fonctionne pas, les gens sont irresponsables, voici Laura, l'avis de Laura, je vous vois lever les bras, je le dis pour et rigoler, mais toujours est-il effectivement que est-ce qu'il faut taper du poing sur la table, Arnaud Montebourg, et demander à l'État de réguler tout ça, de mettre des taxes, d'y aller.
Nous sommes en position de force par rapport aux Chinois. Nous sommes le premier marché mondial, mais nous n'avons pas de système politique européen qui nous permette de le faire. L'Europe est une paralytique. Elle fait des très beaux rapports, le rapport Draghi, le rapport l'État, mais elle ne prend aucune décision. Nous n'avons aujourd'hui jamais vraiment réussi à mettre des taxes sérieuses sur les aciers alors qu'il y a un dumping considérable, la part des Chinois qui est prouvé, démontré, etc. Sur le textile, nous pourrions faire exactement la même chose. Sur la quasi-totalité des importations. Donc moi, je suis favorable à ce qu'il y ait une sorte de trumpisme européen, c'est-à-dire que on décide enfin de défendre nos intérêts dans la conflictualité qui monte, parce que c'est pas le monde, comme disait un penseur américain, qui avait fait un livre qui s'appelait La puissance et la faiblesse, c'était un républicain d'ailleurs, il avait dit ah, les Américains ils font la guerre, c'est le dieu Mars, et alors les Européens ils font l'amour, c'est la déesse Vénus, ils sont gentils avec tout le monde, ils sont ouverts, ils font les bisous à tout le monde. Ben, voilà le problème, c'est que l'Union Européenne va maintenant entrer dans le nouveau monde, qui est un monde où on est en train de se faire désosser. Et alors, l'Union européenne est en train de descendre.
Est-ce qu'il faudrait aller plus loin et, par exemple, créer une police de la consommation qui dirait ce qui est bon ou mauvais pour les consommateurs français ? Jean-Marc Daniel, bonne idée ?
Ah non, c'est une idée que je combats fermement. D'abord, je rappelle encore une fois par rapport à ce qui vient d'être dit, l'Europe est le deuxième excédent extérieur mondial. 115 milliards d'excédents en euros au premier trimestre. On ne se fait pas avoir, on est en train d'empocher énormément d'argent grâce au commerce international.
Vous parlez des Allemands essentiellement.
Non, je parle des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Néerlandais.
Excusez-moi, l'Europe n'est pas l'Allemagne. Et par ailleurs, vous parlez du libre-échange avec le reste du monde, je vous parle de la Chine. Nous faisons tous les ans un chèque de 30 milliards aux Chinois. Tous les ans, depuis 10 ans, ça fait 300 milliards. Arrêtez de maquiller ça derrière des statistiques moyennes.
On fait des chèques aussi pour le pétrole, on fait des chèques sur ce qu'on n'a pas. Et on fait en retour des ventes à des gens à qui on a fait des chèques. Et concernant effectivement la police, la seule police, à mon avis, qu'on devrait faire, entre guillemets, c'est effectivement de se poser la question, on a parlé d'écologie et de l'empreinte carbone et de la conséquence d'un certain nombre de décisions économiques sur le réchauffement climatique. Et donc, la réponse des économistes, c'est non pas des droits de douane, mais c'est une taxe carbone. Et c'est d'augmenter le prix de l'essence, d'augmenter le prix de l'utilisation du carbone.
Et c'est voilà Jean-Marc Daniel, économiste libéral qui se transforme écologique à la fin de cette émission.
Taxe carbone.
On
n'arrête pas le progrès. Moi, je crois qu'il y a trois choses à faire. La première, c'est de réindustrialiser. Dès qu'on réindustrialise, dès qu'on fait un pas en avant sur le sujet, par exemple sur les énergies renouvelables, on fait deux pas en arrière, comme on l'a vu récemment, on bloque les investissements sur les énergies renouvelables. Ensuite, il faut certainement pas fliquer les consommateurs, il faut les protéger. Et la grande réforme pour protéger les consommateurs, c'est d'interdire les réseaux sociaux pour les mineurs. Je crois que c'est la mesure phare qui permettrait de régler beaucoup de problèmes dans cette société, y compris les problèmes de fast fashion.
Et ça sera l'objet d'un nouveau débat. Merci Flora Gebali d'être intervenue, merci Arnaud Montebourg, merci Jean-Marc Daniel. 800 millions de colis chinois et moi. On espère que ça vous a donné l'occasion de réfléchir. Le débat de midi, c'est fini pour aujourd'hui. Mais demain, on revient sur la polémique lancée ce week-end par Mathilde Panot. La France insoumise désarmera les policiers municipaux dans toutes les villes qu'elle remportera en 2026, affirme la chef des députés insoumis. Tollé immédiat au gouvernement. Arnaud Montebourg dit elle ne va pas en remporter beaucoup. Toujours est-il, est-ce qu'il faut armer ou pas la police municipale, faire des shérifs en ville? De France s'affrontent. Et dès maintenant, prenez position, envoyez-nous vos messages au 01 45 24 7000 sur le WhatsApp de l'émission. Enregistrez-vous pour savoir s'il faut armer ou désarmer la police municipale. Merci à mon équipe, Aurore Mansip, Johan Dival, nos stagiaires Anaë Balista et Ryan Saibi. À la réalisation aujourd'hui, c'était Riyad Kera. À la programmation musicale, Valentine Chedebois. Et à la technique aujourd'hui, Paola Collin.